22h sur Europe 1. Et le journal, c'est avec vous, Mel. Bienvenue à bord.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Europe 1 Nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce jeudi soir. À la une de votre journal, la thèse du tir accidentel est écartée dans l'enquête sur la blessure par balle de Kenji Girac. Le procureur de Mont-de-Marsan a livré de très nombreux détails devant la presse cet après-midi. Le chanteur a en fait voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne alors qu'il était fortement alcoolisé. Un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, un exercice auquel s'est plié Emmanuel Macron aujourd'hui pour la deuxième fois depuis son arrivée à l'Elysée. Et le président de la République s'est montré alarmiste sur les dangers qui guettent le vieux continent. Dans ce journal également, la première condamnation de l'ancien producteur star d'Hollywood, Harvey Weinstein, annulée par la cour d'appel de New York. Et puis l'invité politique, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, répondra aux questions de Céline Géraud et Louis de Ragnel.
Europe 1.
L'Europe peut mourir. Cette formule choc est signée Emmanuel Macron. Le président de la République a prononcé ce matin son deuxième discours de la Sorbonne, après une première version très ambitieuse pour l'Union en septembre 2017. Mais cette fois, le chef de l'État s'est montré alarmiste à l'approche des élections européennes. Les dangers qui guettent le vieux continent ont été énumérés devant les 500 convives présents. Retour sur cette prise de parole avec Alexandre Chauveau.
Deux heures de discours et un maître mot pour Emmanuel Macron, la souveraineté européenne, défense, industrie, énergie, alimentation. Le chef de l'État appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face à l'agressivité économique et militaire des puissances adverses. Les règles du jeu ont changé, affirme le chef de l'État, qui met en garde ses partenaires.
L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Réarmement du monde, risque de décrochage économique et remise en cause du modèle culturel occidental. Face à la multiplication des menaces, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation des pays européens. Un message envoyé également aux Français, appelés aux urnes le 9 juin prochain, et ce, alors que la liste de la majorité présidentielle est en grande difficulté dans les sondages.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 est justement en vue des prochaines élections européennes. Les partis d'opposition crient à la campagne déguisée pour la liste Renaissance de Valérie Ayé, après ce discours de la Sorbonne. Certains réclament que les près de deux heures de parole d'Emmanuel Macron soient décomptées du temps réservé au camp présidentiel. Pour la tête de liste et président du RN, Jordan Bardella, le chef de l'État a pris le parti d'intervenir personnellement dans la campagne et devra en assumer les conséquences en cas de désaveu, a déclaré le favori des sondages en présentant son programme pour le prochain scrutin cet après-midi. Europe 1 vous en parlait dès hier, de cet adolescent de 16 ans, fiché S, interpellé en Haute-Savoie, car il préparait un attentat dans le quartier de la Défense pendant les Jeux Olympiques. Le suspect est toujours en garde à vue ce soir, le parquet national antiterroriste mène l'enquête. Mais dans la petite ville de Marigné, en Haute-Savoie, le temps s'est comme arrêté depuis cette nouvelle. C'est là-bas que le jeune radicalisé vivait. Noémie Loisel, vous vous êtes rendue sur place pour Europe 1. Rien ne portait à croire que cet adolescent avait un projet criminel.
Oui, j'ai pu parler avec quelques voisins du quartier. Ils décrivent cet adolescent de 16 ans comme un garçon très gentil, poli, assez timide et sans histoire. Comme beaucoup ici, l'un de ses voisins qui le fréquentait lorsqu'il était plus jeune est surpris d'apprendre la nouvelle.
Super gentil, très poli, pas de signe de violence, rien du tout. Vraiment un super gamin, très gentil, quoi. Sa famille est très gentille, dans le partage. Vraiment une famille normale comme la mienne, comme toutes celles présentes ici. Ici, c'est tellement tranquille, on n'a jamais eu de mauvaises surprises ou de soucis. Par rapport au voisinage et d'autant plus par rapport à cette famille-là et ce jeune, quoi.
Aucun signe de radicalisation selon les voisins. Ils m'ont également confié que ses parents étaient responsables, stricts avec leurs enfants. Dans ce quartier en hauteur de Marigné où une dizaine de maisons sont regroupées, le jeune garçon avait pour habitude de jouer au foot avec ses amis. L'adolescent est actuellement en garde à vue. Il était suivi pour radicalisation islamiste. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un serment d'allégeance à Daesh.
Noémie Loisel à Marigné en Haute-Savoie pour Europe 1. Et un autre adolescent de 16 ans ans, qui avait aussi planifié une tuerie de masse, mais à Antibes et sans lien avec la religion, a été mis en examen et écroué. Le suspect de nationalité turque présente des troubles psychiatriques. Des croix gammées ont été découvertes sur les murs de sa chambre lors d'une perquisition. Une très longue conférence de presse pour livrer de très nombreux détails sur les circonstances du tir qui a blessé Kenji Girac à Biscarrosse dans les Landes dans la nuit de dimanche à lundi. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a donné tous les détails de la journée et de la soirée du chanteur. Et la version initiale, celle du tir accidentel, est désormais totalement écartée. Stéphane Place, pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut d'abord savoir que l'artiste de 27 ans était très fortement alcoolisé au moment des faits.
Oui, dimanche dernier, Kenji Girac a beaucoup bu tout au long de la journée. Les analyses estimeront qu'il avait un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang au moment du tir et révéleront aussi des traces de cocaïne. Quand il revient dans sa caravane en pleine nuit, le chanteur ivre se dispute avec sa femme parce qu'il a réveillé leur petite fille. Pas de violence, mais des mots. Après que sa compagne lui a dit qu'elle voulait partir, elle est dans sa chambre avec leur enfant, l'artiste, lui, dans le salon, prend l'arme qu'il a achetée quelques jours plus tôt. La suite, c'est Olivier Janson, le procureur de Mont-de-Marsan, qui la raconte.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Kenji Girac indique assumer ce qu'il a fait tout en le regrettant fortement et maintient qu'il s'agit d'une simulation de suicide. A précisé le magistrat, cette affaire, sur le plan judiciaire, devrait se terminer par un classement, a ajouté le procureur.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Gironde, où Kenji Girac est toujours hospitalisé ce soir. Selon le procureur de la République, il devrait mettre plusieurs mois à retrouver la pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, les managers du chanteur ont déploré dans un communiqué les détails livrés par le magistrat sur la vie privée de l'artiste. La loi Vignal, entrée en vigueur en juillet 2022, est un franc succès. Elle permet de changer facilement de nom de famille. Avant cela, il fallait invoquer un motif précis. Et selon l'INSEE, plus de 144 000 Français ont effectué la démarche depuis, chiffre 3 fois plus élevé qu'avant la loi. Dans la majorité des cas, les personnes ont souhaité remplacer le nom de leur père ou de leur mère par celui de l'autre parent. Les conducteurs de métro et de RER en région parisienne mobilisés pendant les JO pourront toucher jusqu'à 2500 euros de prime. Un accord a été signé entre les syndicats majoritaires et la direction de la RATP. Pour toucher ce montant, les agents ne devront pas s'absenter plus de 4 jours entre le 22 juillet et le 8 septembre prochain. Au 5e jour d'absence, le montant de la prime retomberait à 1600 euros.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
Sa condamnation en 2020 est considérée comme l'une des premières grandes victoires du mouvement MeToo. L'ancien producteur star d'Hollywood, Harvey Weinstein, sera rejugé prochainement pour viol et agression sexuelle. Le verdict rendu à l'issue de son premier procès à New York il y a 4 ans a été annulé par la cour d'appel. Anne Toulouse, qu'est-ce qui a poussé les juges à prendre cette décision ?
Cette cour, qui est la plus haute juridiction de l'État de New York, a décidé que le procureur avait outrepassé les limites de la procédure en autorisant le témoignage de plusieurs femmes sur des événements qui n'étaient pas en relation directe avec les plaintes déposées. C'est une pratique que l'on voit fréquemment dans les procès célèbres, par exemple dans ceux qui se déroulent actuellement contre Donald Trump. L'accusation veut ainsi démontrer que les faits jugés relèvent d'un comportement habituel de l'accusé. Dans son attendu, la cour d'appel de New York parle d'un abus du pouvoir discrétionnaire du procureur. Celui-ci ne manquait pourtant pas de témoignages directs, puisque des douzaines de femmes, dont des actrices célèbres, sont venues raconter les pratiques sexuelles auxquelles les avait contraintes l'un des plus puissants producteurs américains. Cela ne veut pas dire qu'Harvey Weinstein, qui est actuellement incarcéré dans l'État de New York, va être libéré, car une peine de 16 ans de prison l'attend en Californie. En revanche, la procédure annulée va être rejugée, ce qui signifie que l'un des procès les plus emblématiques des dérives d'Hollywood va recommencer à zéro.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, et un groupe de victimes d'Harvey Weinstein décrit cette décision de la Cour d'appel de New York comme démoralisante et profondément injuste. En France, le réalisateur Laurent Cantet est mort aujourd'hui à l'âge de 63 ans. Il était connu notamment pour son film Entre les murs, récompensé de la Palme d'Or à Cannes en 2008. Il souffrait d'une maladie mais travaillait sur un autre projet de film qui devait sortir en 2025. Le tourisme doit changer. C'est la conviction du maire de Venise qui s'exprimait aujourd'hui, jour de l'entrée en vigueur, de l'entrée payante dans sa ville pour les visiteurs d'une journée. Selon l'élu, il y a urgence à diluer les visites dans la cité des Doges, victime du surtourisme. Le ticket est fixé à 5 euros les jours de grande affluence. Vous écoutez Europe 1, il est 22h09. Place maintenant à l'invité politique. Céline Géraud et Louis de Raguenel interrogent la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot quelques heures après le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur l'Europe.
Europe 1.
Je suis ravie d'accueillir dans ce studio Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à bord. On va décrypter évidemment ensemble le discours sur l'Europe du président Emmanuel Macron. C'était ce matin à la Sorbonne. 7 ans après son premier discours à la Sorbonne, là aussi le chef de l'État a donc réédité l'exercice pendant plus de 2 heures. Quels enseignements peut-on en tirer? Louis de Raguenel, bonsoir.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Vous êtes le chef du service politique et vous avez une première question pour Prisca Thévenot.
Oui, bonsoir Madame la Ministre. Alors donc, on a écouté très attentivement cet après-midi le discours du président. Il y a eu beaucoup de propositions. C'est un discours d'ailleurs de près de 2 heures, donc un petit peu long. Des propositions sur l'immigration, sur l'industrie, la souveraineté. Il y avait quasiment aucun sujet d'ailleurs qui n'a pas été évoqué. Il y a beaucoup de Français qui se posent la question, qu'est-ce qui fait que cette fois, réellement, vous allez faire ce qui a été avancé par le président ?
En fait, tout simplement parce que déjà les autres fois, donc en l'occurrence en 2019, sur la base du discours en Sorbonne de 2017, nous avons fait ce que le président de la République avait dit. En termes de défense, en termes de souveraineté alimentaire, sanitaire, industrielle, nous nous sommes avancés, nous avons réussi à relever des défis communs. On a beaucoup parlé sur ces plateaux et d'autres, par exemple pendant la Covid, nous avons réussi à surmonter la crise Covid grâce à notre capacité à agir en européen. Nous avons réussi à relancer l'économie suite à la Covid grâce à un engagement en européen. Nous avons réussi à nous mobiliser pour soutenir l'Ukraine grâce à un engagement européen. Nous avons aussi changé des sujets qui touchent au quotidien des Français et de nombreux foyers, notamment des parents, sur le numérique. On a commencé à avancer avec des lois sur le DMA, DSA.
Au discours d'Emmanuel Macron là, sur la politique migratoire, c'est vrai, et sur d'autres sujets, on a l'impression d'avoir déjà entendu plusieurs fois, et beaucoup de Français ont entendu plusieurs fois ces annonces, ces engagements, et du coup, forcément, ça peut créer un petit effet déceptif.
Mais vous savez, la Sorbonne, comme j'y étais ce matin, je m'interrogeais sur ça aussi, la Sorbonne, c'est le lieu des promesses tenues. Tout ce qui a été dit en 2017 par Emmanuel Macron en Sorbonne a été tenu, réalisé. Et nous devons continuer à aller plus loin. Eh bien, sur l'immigration, vous avez raison. Frontex, nous l'avons réarmé correctement pour pouvoir effectivement mettre des gardes frontières.
Aujourd'hui, les frontières de l'Union européenne ne permettent pas de protéger l'Union européenne.
Mais nous avons avancé.
Il y a rarement eu autant de flux migratoires.
Nous avons avancé. Nous avons lutté aussi contre les passeurs. Nous avons fait des interpellations en européen. Nous avons également débouté ceux qui étaient déboutés du droit d'asile. Ils ont été reconduits. Donc, je veux dire, nous devons continuer à y aller, mais vous savez, sans naïveté et en lucidité, on ne peut pas en permanence rejeter ou nier tout ce qui a été fait au cours des dernières années. C'est
alors
pas honnête.
Je voulais vous interroger sur une phrase du président et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Le président a dit tout à l'heure qu'il a dit qu'il y avait un risque que l'Europe puisse mourir. Qu'est-ce que ça veut dire dans les mots du président?
Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes. Oui, l'Europe peut mourir. Et nous soyons très clairs, aujourd'hui nous avons quoi? Nous avons des grandes puissances qui se réaffirment, nous avons des guerres à nos portes, sur notre continent, nous avons de grandes instabilités, des ingérences qui viennent bousculer nos démocraties occidentales. Et donc oui, en européen, nous devons pouvoir réagir et
Pour bien comprendre, l'Europe peut mourir en raison des menaces extérieures qui pèsent sur l'Europe, ou est-ce que dans les propos du président, il fallait comprendre que certains partis souhaitent la mort de l'Europe?
Non, mais vous lisez dans mes pensées. Mais c'est exactement ça. Elle peut mourir aussi parce que oui, il y a des ingérences extérieures, parce qu'il y a des fragilités extérieures, et ça, je viens d'en parler. Mais aussi, elle peut mourir en interne d'elle-même. Et regardons ce qui s'est passé cette semaine. Au Parlement européen a été proposé un texte pour justement dénoncer les ingérences russes. Certains mouvements politiques français qui nous représentent au Parlement européen ont préféré aller à la piscine plutôt que de voter. Donc, et je vais vous dire de qui je parle du Rassemblement national. Donc je pense que oui, aujourd'hui, même au sein du Parlement européen, il y a des dangers. Et c'est pour ça que cette élection du 9 juin est fondamentale. C'est réellement un choix pour les 5, 10, 15 prochaines années.
Alors justement, dans les sondages, la candidate Valérie Ayé est loin derrière Jordan Bardella. Qu'est-ce qui cloche ?
Les sondages sont à regarder. Je ne vais pas vous faire l'affront ici de vous dire que je ne les regarde pas et circuler, il n'y a rien à voir. Bien sûr,
on vous croirait pas.
On les... Oui, et puis enfin, je ne vais pas commencer à dire ça. Non, les sondages, on les regarde. Maintenant, est-ce que ce sont les sondages qui nous mobilisent chaque jour au quotidien ? Non.
Enfin, on a fait de la politique. Sensation que le président vient à la rescousse aussi de la candidate Valérie Ayé.
C'est pas parce que le président de la République aujourd'hui, le 25 avril, a parlé d'Europe que ça a une symbolique autre que ce qu'il a fait depuis 2017. Depuis 2017, le président de la République est mobilisé sur le sujet européen. Il a été le premier candidat aux élections européennes à brandir deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau européen. Il a été le premier à dire dans sa campagne pour les présidentielles en 2016, parler d'Europe et de la France. Il a continué inlassablement à le faire au cours des 7 dernières années, à différents moments. Et nous l'avons fait aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous n'avons pas eu de cesse de continuer à avancer sur ces sujets.
Mais justement, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, quelle est votre explication ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle que de sondages, donc une photographie à l'instant T de ce que peut penser l'opinion. Comment est-ce qu'on explique, par exemple, que Jordan Bardella a un score qui est quasiment égal au double de celui de votre candidate Valérie Ayé ? Et je me souviens de la dernière campagne européenne, votre candidate était bien plus haut dans les sondages.
Elle était à 10 points. On était aussi à 10 points.
Un peu plus.
Peu ou prou.
Mais et vous le savez, RN n'était pas aussi fort.
Mais très bien, vous voulez qu'on compare les sondages, etc., sur les élections présidentielles, sauf alors de ma part, il y avait un certain candidat Zemmour qui devait exploser tous les scores.
Ce que je vous dis,
et je vous parle aussi en tant que militante.
Côté par exemple Valérie Ayé, ça veut dire que les Français aussi doutent de l'Europe ? Est-ce que vous n'avez pas été suffisamment convaincant pour expliquer qu'il fallait, parce qu'on entend vos propos et de la majorité présidentielle, il faut plus d'Europe, il faut encore une fois que les Français fassent confiance à cette liste que vous encouragez, que vous soutenez, qui demande aux Français de faire un acte encore plus vers plus de soutien à cette Union européenne.
C'est plus qu'une liste, c'est un projet qu'on défend. On le défend aujourd'hui et on l'a défendu hier en 2017 et on continuera à le défendre. Et j'insiste vraiment sur ça, nous nous mobilisons partout. Bien évidemment ici, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais aussi au quotidien, sur les marchés, dans des tractages, dans des porte-à-porte, en allant coller des affiches, j'y passe mes week-ends, j'y passe mes soirées, comme de nombreux militants et militantes. Nous sommes mobilisés pour convaincre, expliquer et vraiment le faire dans une complexité qui est nécessaire. Simplement être dans un discours de radicalité, c'est facile. Être aujourd'hui dans la nuance, c'est ambitieux, c'est courageux. Et c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui en rappelant que notre projet européen, nous le portons depuis 2017, nous y travaillons depuis 2017 et nous allons continuer à le faire, pas simplement dans un calendrier électoral, mais dans une ambition bien au-delà, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans.
Des élections européennes qui sont quand même effectivement sous haute tension pour vous, parce qu'il y a Jordan Bardella d'un côté, on l'a dit, mais il y a Raphaël Glucksmann de l'autre, et on a vraiment la sensation que pour une fois, c'est la majorité qui est prise en tenaille.
Écoutez, moi j'ai pas l'impression que la majorité est prise en tenaille, j'ai plutôt l'impression que les Français sont pris en tenaille. Quand Raphaël Glucksmann nous explique en long, en large, en travers qu'il a tout fait pour l'Europe et qu'il est loyal à sa famille politique et loyal aux Français.
Il est séduisant,
est séduisant. Moi, je vais vous lire les votes qu'il fait. Et c'est peut-être ça qui est important aujourd'hui.
Ils sont à 80% les mêmes que ceux de votre groupe. C'est ce que Valérie Ayé a dit d'ailleurs.
Je les ai regardés les votes. Et ce que moi je vous dis, c'est que non seulement ils votent contre le texte comme le pacte asile-migration, contre le pacte de stabilité de croissance, la loi climat, le plan en faveur de la propriété intellectuelle. Ils votent contre ces sujets qui sont importants pour les Français. Et en plus, ils votent contre son propre groupe politique auquel il appartient au sein du Parlement européen.
Mais donc
comment croire la parole de Raphaël Glucksmann quand, sur ces sujets-là précisément, sur lesquels il est en train de se prononcer en ce moment, en train de dire que c'est génial et qu'il faut avancer, il a voté contre hier au Parlement européen, et qu'en plus il n'a pas tenu sa parole de loyauté au sein du groupe auquel il appartient. J'interroge sa capacité à faire confiance à la parole de Raphaël Glucksmann.
Voilà pour cet entretien de la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot avec Céline Géraud et Louis de Ragnel. Un mot maintenant des marchés financiers. Net baisse pour le CAC 40, moins 0,93% et une clôture à 8017 points du côté de Wall Street aux États-Unis. Clôture en baisse également, moins 0,98% pour le Dow Jones, moins 0,64% pour le Nasdaq. La météo désormais avec vous, Marlène Duret. Demain, un risque d'averses et quelques orages.
Oui, en fait, très peu de régions échapperont aux averses. Alors évidemment, selon les régions, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Les passages pluvieux seront plus ou moins marqués, plus ou moins nombreux. Et donc, le risque sera plus prononcé demain matin entre le Var, les Bouches-du-Rhône et les Cévennes. Prévoyez de bonnes pluies qui peuvent tourner à l'orage et ce temps instable et orageux va se décaler au fil des heures vers les Alpes du Sud. Et puis, on a une autre zone assez active à l'ouest du pays. Donc, dans l'après-midi, cette fois, de nombreuses averses potentiellement orageuses devraient circuler entre le Périgord, le Poitou, les Pays de la Loire, la Bretagne, le Cotentin avant de se décaler en fin de journée vers la région parisienne et la Haute-Normandie. Alors notez quand même qu'on aura droit à une amélioration au bord de l'océan Atlantique avec le retour progressif du soleil. L'après-midi sera beaucoup plus agréable que la matinée. Et au pied des Pyrénées, ce sera l'inverse. Les belles éclaircies du matin céderont la place aux averses. Quant aux températures, alors c'est mieux évidemment, plus de gel, en tout cas pour cette longue séquence de froid. Là, le gel, les gelées ne concerneront plus que les massifs. Quant aux maximales, elles seront comprises entre 12 degrés à Cherbourg et 19 à Ajaccio, avec généralement 13 à 16 degrés sur la moitié nord et 15 à 18 sur la moitié sud.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1, il est 22h20. La libre antenne arrive en ce jeudi soir jusqu'à 1h du matin. Et le numéro, c'est le 01 80 20 39 21 pour parler avec Olivier Delacroix qui est dans ce studio. Bonsoir à vous.
Bonsoir mon cher Maël, comment allez-vous?
Oui, très bien, très bien. Et vous-même?
Vous êtes en forme?
Écoutez, plutôt oui.
Ouais,
vous êtes très en forme.
Ce soir, vous êtes en week-end en plus.
Eh oui, bah vous dites tout effectivement. Petit week-end de 3 jours.
Bah, c'est bien.
C'est de temps en temps.
Ça va vous permettre de vous reposer un peu.
Bien sûr.
Après une longue semaine de labeur. Et puis on se retrouvera lundi.
Mais avec grand plaisir. Bah, j'ai quand même à 23h et à minuit quand même.
Oui, et j'allais vous le dire.
Voilà.
Pas trop vite. Bon. Écoutez, rien à signaler dans le journal. J'ai entendu à un moment quelque chose. Weinstein qui va être rejugé à New York. C'est quand même... On marche sur la tête.
C'est l'un des deux procès, mais vous savez, alors ça, en fait, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. C'est-à-dire qu'il y a
il fallait peut-être y réfléchir avant. Si
il y a
vous
des ce qu'on appelle en France des vices de procédure qui ont été détectés lors du premier procès.
Oui.
Ce procès est donc annulé, la condamnation avec, et il sera rejugé. Maintenant, il reste en prison parce qu'il a été condamné dans un autre procès aussi pour viol agression sexuelle en Californie.
Voilà. Mm-hmm. Mais si vous voulez, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est de voir combien un homme qui devrait se cacher au fond d'un trou, hein, au fin fond de sa prison, et ne plus la ramener, comme on dit, à grands coups de millions de dollars encore, puisque c'est toujours aux États-Unis, lorsqu'il s'agit du plus gros producteur de cinéma, on imagine les sommes en jeu pour ses avocats. Voir combien un homme comme celui-ci qui a abusé de dizaines et de dizaines de femmes, au lieu de rentrer un peu dans sa coquille et de se faire oublier un peu, finalement est toujours à l'attaque. Et vous voyez, ça traduit quelque chose de la nature humaine et de l'homme finalement, hein, parce que cet homme pense encore que il est victime d'une injustice quelque part.
Quoi qu'il en soit, il sera rejugé. Il y a très peu de chances qu'il soit évidemment acquitté. Il sera certainement condamné aussi dans ce second procès.
Bien évidemment, puisqu'il s'agit de vices de forme, comme vous disiez, et donc de nombreux témoignages de femmes n'ayant pas directement un lien, en tout cas un lien direct avec les viols et les agressions sexuelles pour lesquelles Weinstein se retrouve aujourd'hui accusé. Et puis 16 années l'attendent en Californie après la peine qu'il prendra dans l'État de New York. Donc, bonne chance que l'on ne revoie pas cet homme pendant un bon moment.
Voilà.
Et on s'en portera pas plus mal.
Je crois.
Voilà. On vous retrouve à 23h et à minuit avec, là, ce soir, vu que vous partez en week-end, c'est multi-surprise.
Multi-surprise.
Feu d'artifice.
Celle de 23h est déjà prévue de longue date.
Voilà.
Avec le réalisateur Laurent Pelé qui en début de semaine m'a dit il faut absolument que jeudi soir tu mettes cette chanson là.
Qui vous a aidé.
Qui m'a aidé, qui m'a vivement recommandé. Je vous cache pas que je vais suivre ses conseils, donc rendez-vous à 23h.
Vous pouvez parce qu'il a un goût vraiment très juste et certain pour la musique.
Ah, je confirme.
Vous pouvez vraiment grandement lui faire confiance à ce garçon parce que il fait les trois quarts de la programmation de la Libre Antenne et donc du coup bien nous sommes avec lui au carré tranquille.
C'est vrai. Vous
même
avez raison.
Même si ce soir pour la dernière fois de la semaine c'est Esteva qui réalise l'émission aux côtés bien évidemment de son mentor que je n'ai pas encore vu qui est là dans le coin mais voilà nous sommes bien accompagnés ce soir.
Tout à fait.
À tout à l'heure mon cher Maël.
À tout à l'heure.